Vendredi 30 novembre, un jeune Turc de 22 ans sans papier s'est suicidé au centre de rétention du Canet, à Marseille. Silence et radio sur ce drame, mais tout va bien. Sarko et Ségolène sont à 50%, 50%. Monique.
Moi, j'appelle parce que ça va. Voilà, ça va bien. Et il faut dire aussi quand ça va. Tu vois, là, ça fait 3 ans que je vis avec 500 euros par mois avec ma copine. Et ça va. Ouais, ça va. Tous les gens qui sont dans la précarité sont pas malheureux. Et voilà. Alors, je te cache pas qu'on aimerait bien avoir plus et mieux. Mais ça va. Et alors forcément on va pas au supermarché hein, et puis on n'a pas d'écran plat et puis quand on veut du pain on va pas l'acheter, on le fait, et puis quand on veut des légumes on va faire les marchés, on essaie de trouver des trucs pas chers, tu vois, et voilà. Mais on mange, on a une petite maison, bon c'est pas très grand, on réussit même à payer des croquettes à notre chat, tu vois, donc c'est vraiment le luxe. Voilà, donc je voulais dire les gens qui vont bien avec peu, il faudrait aussi qu'ils passent de temps en temps pour dire c'est vrai qu'on aimerait bien que les choses soient meilleures, mais on peut aussi être content, quoi. Voilà. Donc, c'était Mathieu qui est content. Voilà. Salut.
Bonjour Daniel. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre, mon père est décédé. Il avait combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée française contre l'occupation nazie et était retraité au S de chez Renault à Boulogne-Billancourt. Habitant un HLM à Drancy, il était tombé dans l'escalier de son immeuble, resté sans lumière, et depuis, son état de santé avait dégringolé. Suite à la décristallisation des pensions des anciens combattants, des anciennes colonies françaises, il avait reçu un rappel de 3 ans de sa pension, qui se levait à 80 euros par an. Il n'aura pas eu le temps d'en profiter. C'est Salia de Toulouse, et merci pour votre émission que j'écoute depuis de nombreuses années.
Allô, bonjour Mermé, bonjour toute l'équipe, c'est Christine de Nîmes. J'appelle pour rappeler à tout le monde que ce mercredi 6 décembre, qui sera le premier mercredi du mois de décembre, nous nous retrouvons pour le repère des amis de la Bastille, j'y suis, au Petit Subito, à partir de 19h23. Venez nombreux. J'avais autre chose à ajouter. J'ai bien apprécié le reportage en photo sur Internet. C'était très sympa de voir Mermé déguisée en afghan et puis toutes les autres photos. Continuez. À bientôt.
Muriel de Lyon. Aujourd'hui, je suis allée visiter la famille Rabat au centre de rétention de l'aéroport d'où ils risquent d'être expulsés. Alors la famille Rabat, c'est un très jeune couple vivant en France depuis 5 ans avec leurs enfants de 8 ans, 5 ans et 3 ans qui sont nés en France. Madame Rabat est blessée suite au tabassage policier. J'ai vu sa jambe bandée et tuméfiée. Un enfant m'a montré ses bleus provenant aussi des policiers. Je suis mère et grand-mère et j'ai vu ces 3 petits-enfants dans un parloir, dans une prison. Des enfants en prison, imaginez. C'est indigne, c'est honteux. Il faut être nombreux à réagir en inondant le ministère de l'Intérieur de fax au 01 40 07 21 09. Au revoir.
Bienvenue à tous les amis de Daniel Mermé, particulièrement à ceux de Limoges. N'oubliez pas notre rendez-vous au repère des amis de la Bastille, donc le Woodstock Boogie Bar. C'est mercredi 6 décembre, aux alentours de 18h30. Et c'est Bernard Valadas qui viendra nous parler des mésaventures de GDF. À mercredi. Salut.
Oui, bonjour, donc Bruno de Lyon. Voilà, je vous appelle parce que j'ai écouté pendant les 2 jours les émissions donc sur les rachats d'entreprises dans le but de pomper l'argent, si j'ai bien compris, dans la caisse et ensuite de licencier et de fermer sans verser une goutte de larmes, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ça assez réconfortant dans ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je crois, interdire les licenciements pour les entreprises qui ont des gros bénéfices. Ce serait vraiment un point important. Et je crois aussi qu'il serait peut-être temps aussi de changer la façon dont on gère les cotisations dans les entreprises. Et à mon avis, je ne peux pas développer là, mais si on indexait le taux de cotisation, bien sur le taux, par exemple, de cotisation chômage sur le taux de chômage, le taux de cotisation maladie sur le pourcentage de gens qui ont des problèmes, ben je crois que ça, si on faisait varier en fonction de ces taux-là, ben je crois que ce serait peut-être plus juste. Plus il y a de chômeurs, plus on paye, moins il y a de chômeurs, moins on paye. Plus il y a de gens malades, plus on paye, moins il y a de gens malades, moins on paye. Et on pourrait même encore un petit peu détailler. Donc voilà, voilà deux, trois petites choses qu'on pourrait faire, je crois, pour éviter tout ça et inciter les patrons à embaucher et arrêter de piquer dans la caisse. Donc voilà, c'était mon message. Merci.
Merci. Attention aux messages que vous envoyez en roulant comme ça en voiture. C'est pas toujours très très bon, mais celui-là est intéressant. Et ça fait suite aux deux émissions de jeudi, de mercredi et de jeudi, où les patrons deviennent des vedettes. Non, là-bas, si j'y suis, non, mais c'est incroyable. Ça peut paraître insensé, mais pourtant, ça a été le cas pendant deux jours. Et à nouveau, aujourd'hui, on va écouter la mondialisation heureuse. Point d'interrogation, vu par des patrons, pas par les patrons général représentés par la porte-parole du MEDEF, mais certains patrons, parce qu'évidemment, on pourrait s'en douter, tous ne sont pas forcément alignés sur ceux qui parlent en leur nom. Il y a quand même des nuances, et des nuances qui sont inspirées par l'expérience, et l'expérience, c'est le terrain, c'est les entreprises, et c'est là où ce qu'on va, la mondialisation libérale, depuis des années, on essaye de la décrire, on essaye de décrire l'horreur économique, pour tout dire, mais c'est toujours du côté de la victime, du salarié qui se fait virer, des syndicalistes en lutte, des journalistes qui s'interrogent, des intellos qui essayent de conceptualiser tout ça, etc. Mais il manquait quand même le patron. Ou alors évidemment, le patron c'est toujours le méchant, le salaud qui s'en va, etc. Et ben là non. Et ben là non. Pour une fois, on s'en serait douté. Mais voilà des patrons dans cette vallée de larves près de Cluses, dans le décolletage, des patrons qui disent à quel point les fonds d'investissement, les fonds de pension, on va voir non seulement, parce qu'on dit toujours fonds de pension américains, mais non, on va s'apercevoir que les fonds d'investissement, cette forme de capitalisme de la rente, détruit tout simplement l'économie industrielle, le capitalisme précédent. C'est deux formes de capitalisme, l'une, la nouvelle, étant en train de bouffer l'autre et de détruire l'autre. Nouvelle, c'est peut-être pas tout à fait nouvelle, si on est d'accord avec la métaphore du grand bond en arrière, et bien il y a bien un moment à la fin du 19e siècle, peut-être bien au temps de Guizot et des rentiers décrits par Balzac, on devait rencontrer cette force de la rente et du rentier, aujourd'hui on dit actionnaire, sur l'économie et évidemment sur le travail des autres et sur la sueur du peuple. C'est après les messages que voici parmi ceux que nous avons sélectionnés, choisis parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Un message pour les auditeurs modestes et géniaux de la région de Ploubalais. Nous allons nous rencontrer pour le repère de là-bas le mardi 12 décembre. Exceptionnellement, le rendez-vous est avancé à cette date pour cause de fête de fin d'année. Donc, rendez-vous le 12 décembre au Pénalty, chez Marie et Pierrot, à Ploubalais, à 20h. On trouvera bien de quoi discuter. À bientôt, donc.
Muriel de Lyon. Aujourd'hui, je suis allée visiter la famille Rabat au centre de rétention de l'aéroport, d'où ils risquent d'être expulsés. Alors, la famille Rabat, c'est un très jeune couple vivant en France depuis 5 ans avec leurs enfants de 8 ans, 5 ans et 3 ans qui sont nés en France. Madame Rabat est blessée suite au tabassage policier. J'ai vu sa jambe bandée et tuméfiée. Un enfant m'a montré ses bleus provenant aussi des policiers. Je suis mère et grand-mère et j'ai vu ces 3 petits-enfants dans un parloir, dans une prison. Des enfants en prison, imaginez. C'est indigne, c'est honteux. Il faut être nombreux à réagir en inondant le ministère de l'Intérieur de fax au 01 40 07 21 09. Au revoir.
Daniel, bonjour. Petit message pour les amis de Lille et du Nord. Donc, venez rencontrer ce soir le Père Noël. Alors, toujours au Café L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny, dans le Vieux Lille. Voilà, à 20h. À bientôt et venez nombreux.
Ouais, Chavez fait lui 35% des voix, 32% opposants, 38% opposants. Dans les médias français, c'est quand même intéressant de constater qu'on décrit Chavez comme populiste alors que ça fait 11e élection qu'il gagne, alors que son adversaire Manuel Rosales a été décrit comme un social-démocrate, alors que c'est l'un des rares politiques vénézuéliens qui avait signé l'accord avec le coup d'État qu'il y avait eu le 12 avril 2002, reconnaissant la présidence de Pedro Carmona, fasciste golpiste. Survive, portez-vous bien.
Bonjour, ici Marguerite des Chantiers de la Lune, à la Seyne-sur-Mer. Donc nous attendons les auditeurs le premier mercredi du mois, 19h, donc au Chantier de la Lune, 31 place Benoît Frachon, à la Seyne-sur-Mer, au 04 94 06 49 26. Merci, bonne soirée.
Les médias qui ont un appétit insatiable pour les anniversaires ineptes, il y a 30 ans, on fête la première démission de Chirac. C'est bien intéressant. Il y a 25 ans, on fête la mort de Georges Brassens, paix à son âme. Mais enfin, c'est pas des événements quand même très très importants. Personne n'a songé à fêter, il faudrait mettre des guillemets, hein, l'anniversaire de la loi de déréglementation de 1986. Je peux vous garantir qu'elle nous a fait changer d'époque.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas c'est J'y suis avec François Ruffin, la mondialisation heureuse. Flight number 2,
arriving from... Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont tout retiré, l'argent tout de suite, puis ils ont coulé. C'est-à-dire, on pompe sur l'entreprise, évidemment, après ça résiste pas. Hein. Dans le fond, je crois qu'ils n'avaient pas de grande vue, même s'ils coulaient après, c'était pas leur... je pense que c'était pas leur problème.
Eux, c'est... du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout.
Le MEDEF devrait se dire, surtout ne licencions pas chez Y, parce que demain je vais licencier chez X. Alors qu'aujourd'hui on a l'impression de dire, ah vas-y Y, vas-y, licencie, tu te porteras bien mieux, et X suivra ton exemple. Moi ça me désole.
C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés, alors ils traitent des chiffres. Hein. Ils ne voient pas la conséquence humaine à côté.
Alors, qui cause, là, d'après vous? Qui vient de parler syndicaliste, salarié, chômeur, intello, journaliste dissident? Eh ben non, vous avez compris, ce sont des patrons. Pas forcément des petits patrons, d'ailleurs. Hein, dans cette vallée de larves, et non pas de larmes, pas encore, où nous nous rendons, sur 30 kilomètres environ, eh bien, c'est là que l'activité est consacrée au décolletage. Et c'est 70% du décolletage français qui s'effectue là à travers plus de 522 entreprises, plus de 10 000 salariés. C'est donc une activité intéressante. Quoi. Ça marche. Ça commence à branler dans le manche. Cette activité, on nous a expliqué mercredi et jeudi ce qu'est le décolletage, une fabrique de petites pièces métalliques généralement circulaires qui datent de la fin du 19e, la Savoie, pas loin de Genève, l'horlogerie. Alors l'hiver, dans les campagnes, eh bien, on décolletait, on tournait des pièces. Et puis voilà, ça s'est développé. On nous a expliqué comment, notamment grâce aux bonnes guerres mondiales, la première. Et puis la seconde, et puis l'automobile, etc. Si bien que un développement formidable. Sauf que, eh bien voilà ce que nous dit l'économiste Frédéric Lordon dans cette introduction. 1986, la loi de déréglementation. Et bien voilà. Ça fait quoi, 86, 2006, 20 ans. 20 ans d'application peu à peu de cette loi, de ces principes qui veulent étendre, qui ont voulu étendre le libre-échange à travers toute la planète et laisser agir la main obscure hein, du marché. C'est-à-dire que, eh bien, il suffit de laisser faire et tout s'arrangera. C'est pas une théorie tout à fait nouvelle. J'ai sous les yeux, envoyé par un auditeur, un texte du prince Louis-Napoléon Bonaparte dit Badinguet dit III. Napoléon III. Qui, dans un ouvrage fameux à son époque, L'extinction du paupérisme, disait ceci, je cite Napoléon III, je le cite, « L'industrie, cette source de richesse, n'a aujourd'hui ni règles, ni organisation, ni but. C'est une machine qui fonctionne sans régulateur, peu lui importe la force motrice qu'elle emploie. Broyant également dans ses rouages les hommes comme la matière, elle dépeuple les campagnes, elle agglomère la population dans des espaces sans air, affaiblit l'esprit comme le corps, et jette ensuite sur le pavé, quand elle n'en sait plus que faire, les hommes qui ont sacrifié pour l'enrichir leur force, leur jeunesse, leur existence. » Et plus loin, Napoléon III, je le rappelle, qui n'était pas encore Napoléon III lorsqu'il écrit ces lignes, mais tout de même, nous précise, je cite toujours, « Au lieu d'aller chercher des consommateurs en Chine, qu'on augmente donc la richesse territoriale, qu'on emploie tous les bras oisifs au profit de toutes les misères et de toutes les industries, ou plutôt qu'on fasse l'un et l'autre si l'on peut. » Voilà, intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qui a fait que ce capitalisme, mille fois décrit comme une force folle, sans signification, et qui court d'elle-même à sa destruction, eh bien, on l'a dit et redit, Cornelius Castoriadis nous le disait lors d'un fameux entretien que nous avons encore diffusé, rediffusé dans les jours derniers, dans les semaines dernières, eh bien, c'est bien grâce ou à cause des luttes sociales, des luttes notamment ouvrières, dans cette opposition entre le capital et le travail, que le capitalisme a pu survivre et se prolonger en laissant, en apportant un certain nombre de bienfaits à nos sociétés. En lutte, bien évidemment. Une définition un peu rapide, mais qui n'est pas sans intérêt par rapport au phénomène auxquels nous assistons sans toujours le comprendre, c'est-à-dire cette déréglementation, sans toujours le comprendre, mais en le subissant et en mesurant chaque jour un peu davantage les effets et les désastres. Aujourd'hui, c'est les patrons eux-mêmes qui parlent de cela à l'intérieur de leur expérience et de leurs entreprises. Un film très intéressant, je le répète, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, de Gilles Perret, « Ma mondialisation », c'est la mondialisation vue par, au fond, un seul patron qui s'appelle Yves Bontaz et qu'on va retrouver à notre tour, qui raconte comment ces déréglementations bouleversent son entreprise et donc peut-être lui-même, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ses salariés, et par voie de conséquence, puisque toutes les entreprises, les 500 et quelques entreprises de la vallée de l'Arve sont dans la même condition, eh bien, une modification très importante pour cette société, une modification qui, hélas, ne va pas dans le bon sens, avec donc ce patron, avec un certain nombre de ses collaborateurs et avec l'économiste Frédéric Lordon. Nous partons pour une heure de là-bas et j'y suis sur France Inter jusqu'à 16h.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Acceptez, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
On va aller au chalet de Monsieur Pontaz. Je pense qu'il nous attend à cette heure-là.
Là, on va rencontrer Yves Pontaz, un patron d'une grosse entreprise plutôt.
Oui, maintenant ils sont 1000 salariés, donc 300 en France et 700 à l'étranger, en Chine, au Brésil, en République tchèque, aux États-Unis, peut-être bientôt en Corée. Enfin, c'est une success story familiale, on va dire.
Une success story familiale, dit le cinéaste Gilles Perret, auteur du film Ma mondialisation. Et c'est avec lui et avec François Ruffin qu'on va rencontrer donc Yves Pontaz, un des patrons très en vue dans cette vallée de larves. Intéressant parce qu'évidemment, vous avez compris, on est dans le local, hein, mais on va essayer de... Vous connaissez le principe, hein, agir local et penser global. Là, on est obligé. Le penser global, la globalisation nous oblige à penser global. Et la grande difficulté est, peut-on agir global? Et ça, c'est pas, c'est une autre paire de manches. Mais on va essayer de comprendre comment ça se passe, cette histoire de ce capitalisme somme toute paternaliste à ce phénomène des fonds d'investissement qui menace ce capitalisme. Il ne s'agit pas de préférer l'ancien, sans doute pas. Mais en tous les cas, il est certain que le nouveau, l'économie financiarisée, on répète cette expression depuis assez longtemps, pour aujourd'hui être assez content de lui trouver une forme concrète et matérielle dans la vie, pour passer un peu de temps avec ces gens-là. Avec, en l'occurrence, Yves Pontaz, qui ne manque pas, évidemment, pour commencer, de raconter sa success story.
Donc, je vais vous expliquer. Là, c'était... Avant, mon père avait donc deux vaches et puis un cheval. Et puis, donc, après, il a vendu son cheval et on a commencé à mettre quelques machines ici. Mon père était agriculteur, puis en même temps travaillait à l'usine, parce qu'avant, il faisait les 2 fois 40 heures, c'était pas comme maintenant. Et moi, j'étais donc ouvrier 2 ans dans une entreprise de la région, qui faisait des machines à décolleter, mais dans la mécanique. Et puis, j'ai donc arrêté chez mon patron, et j'ai commencé avec 2-3 machines ici, dans son ancienne grange à écurie. J'ai embauché mon père comme premier ouvrier, parce qu'il travaillait encore ailleurs, lui.
C'est quoi le bruit qu'on entend derrière?
C'est le bruit des machines. C'était donc la fameuse époque de 70 où il y avait un boulot fou. Tout le secteur automobile avait du boulot. Alors donc, c'était assez facile. Je suis allé à Paris, je suis rentré chez Peugeot, Renault. On nous a accueillis à bras ouverts. Toute la région travaillait, c'était la folie de 70. Mais il n'y avait plus de coiffeurs, plus de bouchers, plus rien. Ils étaient tous à leur compte. Tout le monde faisait du décolletage. Les ouvriers travaillaient 50 à 60 heures par semaine. Tout le monde avait sa villa, c'était... une époque relativement facile par rapport à maintenant.
On va commencer à changer maintenant, alors.
C'est-à-dire, tous les frais de douane sont partis, il n'y a plus de règles. Donc, c'est venu une jungle.
Ça, vous l'avez senti, vous?
Ah ben, c'est évident. Les clients demandaient des prix de plus en plus bas, il a fallu s'automatiser. Et de fil en aiguille, la société a grandi. Et après, bon, on est parti en 1992, on est parti en République tchèque.
Parce que là, on rencontre à Marna, en Savoie, où il y avait la ferme de votre père. Mais en fait, vous êtes presque une multinationale à vous tout seul, monsieur Montal.
Maintenant, ça a tout changé. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça. Par exemple, Peugeot, Renault nous ont dit, on va monter le moteur au Brésil, en Chine. Si vous ne nous suivez pas, on va trouver des fournisseurs sur place. Alors on est parti, j'ai pris ma valise et je suis parti dans ces pays, j'ai ouvert les filiales.
Donc vous ne vouliez pas trop partir là-bas au départ?
Si, ça me plaisait un peu de sortir.
Sortir de la Savoie, ouais, ça vous plaisait?
Sortir un petit peu pour voir le monde.
Donc vous avez vu le monde en délocalisant alors?
Oui, ma première délocalisation c'était donc à Prague. Il y a quand même 12 à 13 ans, c'était à la fin du communisme. Je suis arrivé là-bas et les gens avaient des chars à foin, les gens faisaient la terre, ils gagnaient 50 euros par mois, c'était la misère. Et quand on est arrivé, ils trouvaient tous les Occidentaux contents, les Allemands et les Français, qu'on arrive là-bas. C'est pour ça que ceux qui tapent à boulet rouge sur les localisations à l'étranger, moi je suis contre, parce que s'ils avaient vu comme moi des pauvres Tchèques il y a 12 ans, crevés de faim, pas crevés de faim, mais bon, qui vivaient dans une époque pratiquement primaire après la fin du communisme, ils verraient que la mondialisation, ça amène du bien quand même.
Pourtant, dans le film de Gilles Perret, on voit des ouvriers chinois qui travaillent pour vous.
Pour rien, ouais. C'est-à-dire que les prix ont été faits par nos directeurs chinois. Et je ne savais pas qu'ils gagnaient 80 euros par mois. D'ailleurs, suite à ce film, on les a passés à 130 après, quand j'ai appris ça. Maintenant, quand vous allez chez un constructeur, ils vous disent, vous avez des usines, vous n'en avez pas en Chine, au Brésil. Bon, même si dans 2 ans, vous ne travaillez plus pour nous.
Aujourd'hui, pour n'importe quel secteur d'activité, on ne peut pas ignorer le marché chinois.
1,4 milliard d'habitants, c'est quand même énorme.
Un marché de 1,3 milliard.
Il y a des opportunités de business énormes.
Il y a une place importante à prendre.
On ne peut plus faire sans parce que c'est aussi un marché.
Il y a des possibilités dans ce marché.
La Chine, elle a contribué à 16% de la croissance mondiale.
Chez nous, nous n'y allons pas. D'autres iront à notre place.
Parce que si ce n'est pas vous qui allez, encore une fois, en Chine, ce sera votre concurrent chinois qui va se développer.
La petite minorité de Chinois qui ont accès au grand luxe, ça représente 60 millions de personnes.
Et donc vous dites que vous avez 600 ouvriers à Prague?
Oui, on en a 50 ans en Chine, 50 ans au Brésil.
Mais auparavant, tout le montage, il se faisait aussi en France.
Ouais, au début, il était fait en France. Pour ça, on a encore une usine à Cluses, à Thiers. Des usines bon, qui sont à peu près vides maintenant, mais on fait encore les prototypes et les mises au point. Mais dès qu'on a senti que ça pesait sur nos prix, parce qu'on avait nos clients qui venaient pour analyser les prix, dès qu'ils ont senti qu'il y avait trop de main-d'œuvre, ils nous ont dit de partir vite, sans ça que nos prix étaient plus compétitifs.
Donc finalement, c'est les activités où il y avait le plus besoin de main-d'œuvre.
Voilà, qui sont partis. On a même un concurrent en Allemagne, il fait faire les pièces dans une prison, tellement l'automobile veut des prix compétitifs. En France, on fera le recherche, enfin, le commercial, le marketing, on fera les prototypes, on suivra les premières années, après, on fera plus que usinage et on fera tout l'assemblage et le contrôle et la logistique dans ces pays qu'on appelle à l'host coût.
Low cost.
Low cost, oui, je ne suis pas bien fort en anglais.
Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, les gens qui avaient peu ou pas de qualifications, qui travaillaient au montage
Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça sera plutôt le personnel féminin et non qualifié qui n'aura pas de travail. Allô? Oui, là, je suis à l'usine du haut, pourquoi? Ben, on revient maintenant.
Moulinex, vous vous souvenez de Moulinex? Comment Moulinex a disparu? Comment Moulinex a coulé? Eh bien, pour Frédéric Lordon, qui est économiste, n'économise pas forcément comme ceux qu'on entend généralement, du soir au matin, mais surtout le matin. Il a un point de vue un peu différent. Il fait entendre une autre musique, Frédéric Lordon. Et ben, pour lui, qui a tué Moulinex, c'est évidemment les marchés financiers. La dure loi des marchés financiers. L'entreprise a exigé des salariés, des adaptations sans fin. Adaptations dont finalement l'entreprise est morte. Est-ce que ce sera le même scénario pour les entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve? Frédéric Lordon s'est intéressé à ce secteur. Il a été l'un des conseillers du film de Gilles Perret, Ma mondialisation, et il nous apporte quelques lumières.
Les salariés sont attachés à un sol, à une terre. Enfin, ils ont eu leur maison pas loin de l'usine. Et finalement, le patron local, le patron qui lui aussi avait sa maison pas loin de l'usine, il habitait dans la vallée. Et à l'inverse, on a l'impression d'une rupture de tous ces liens à un lieu, à un sol et entre les hommes, quoi.
Mais là, effectivement, c'est bien là toutes les tendances du capitalisme d'aujourd'hui qui exigent de saisir les opportunités partout où elles se présentent, et même si c'est à l'autre bout de la terre. Alors, quel est l'acteur le plus mobile ? C'est la finance. Bon, la finance se déplace internationalement à la vitesse des signaux électroniques qui circulent dans les câbles. Bon. Le capital industriel, lui, déjà, est beaucoup plus difficile à bouger. Mais il peut bouger. Qui sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables, ce sont les salariés qui, eux, sont attachés effectivement à leur terre.
Bon, maintenant, vous accrochez à notre petite place, à nos petits 1200 euros par mois, puis voilà.
Quand tu les as,
et puis après, terminé. Il faut se taire. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour, ça va peut-être...
C'est à cause des Américains, ils achètent les usines françaises et après, il y a chômage.
Alors, on voit très bien hein, dans le film de Gilles Perret comment opère cette différenciation par la capacité de mobilité. Les fonds de capital investissement qui s'investissent dans la vallée, ils viennent des États-Unis. Voilà. Et boum, il déboule un jour comme ça. Le père Bontaz, il est mobile, hein, lui aussi. Le voilà parti ouvrir une filiale en Chine, une autre en Tchécoslovaquie, etc. Donc... Dieu sait que son patelin, il doit l'aimer beaucoup, hein, j'en doute absolument pas, mais il a été capable de s'en sortir et d'aller voir ailleurs. Et puis il y a les salariés. Ah oui, mais les salariés, eux, ce sont les plus immobiles de tous. La vallée de l'Arve, c'est leur horizon. Alors oui, bien sûr, un jour, ils pourront déménager, aller ailleurs, etc. Mais avec quel coût, avec quelles difficultés, avec quels arrachements pour la vie personnelle, etc. La finance, elle va de la vallée de l'Arve aux États-Unis, au Japon, en Chine, en un claquement de doigts. Donc elle estime que les salariés doivent pouvoir en faire autant.
Mais où il est, cet argent ?
Il n'existe pas. C'est du virtuel. Il existera jamais. Si on voulait le faire exister, il n'y aurait pas assez d'arbres sur toute la planète pour faire assez de papier, pour faire assez de billets. Et je te parle pas de la couche d'ozone. Hein. On est assez dans la merde comme ça. Hein.
C'est de l'argent virtuel, mais c'est odieux.
Non, c'est magique, l'argent virtuel. Quand il y en a beaucoup, c'est les riches qui en profitent. Quand il y en a plus, c'est les pauvres qui en chient.
Mais si tout s'effondre, qu'est-ce qu'on va devenir ?
M'en fous. C'est le boulot des politiques, ça. Inventer un autre truc qui soit pas coco, qui soit pas libéral. Un truc nouveau, quoi, qui marche.
Et vous, dans tout ça ?
Moi, j'attends que le nouveau truc il soit en place.
Et après ?
Je trouverai un truc pour baiser le nouveau truc. Les Niakoué, les négros, les PD du Sud et les politiques qui l'ont fait.
T'es plein d'espoir, hein ? La suite.
Est-ce qu'on va trouver un peu d'espoir dans cette vallée de l'Arve ? Quoi qu'il en soit, on retrouve Yves Bontaz, le patron.
Donc ici, c'est l'usine du haut, c'est ça ? On vous l'appelle
ouais,
comme
c'est
ça ?
L'usine du haut, on l'appelle ça.
Et après, c'est l'usine d'en bas ?
L'usine du bas. Vous voyez une usine à Franck Épinard qui, ces jours, bon, a quelques difficultés. Et un fonds de pension est venu là. Ils ont déjà refait une vente une deuxième fois. Il y a un an, ça fait partie des 10 plus grosses entreprises qui sont pratiquement passées sur fonds de pension américain.
Donc vous, on vous a pas fait des propositions
Disons qu'on a vendu une partie et que là, on a tous les 15 jours une offre de fonds de pension qui veulent nous racheter ici.
Tous les 15 jours, il y a des fonds de pension qui veulent vous racheter.
Oui, parce que bon, je ne sais pas si vous suivez la presse économique, mais il y a des milliards et des milliards en réserve dans les fonds de pension américains et canadiens. Et ils attendent vraiment leur proie pour les acheter. Et la valeur des entreprises a presque été multipliée par 1,5 en 3 ans du fait qu'il y a une masse d'argent inutilisée actuellement dans les fonds de pension. On a vendu un fonds de pension canadien. Quand on arrive au bout de 3, 4, 5 ans, c'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ils ont envie de revendre leur partie. Alors, pour que ce soit bien vendable, qu'il y ait une bonne présentation de la société. Par exemple, chez nous, ils veulent mettre des directeurs qui présentent bien, qui sortent de l'ENA ou des conneries comme ça. Mais bon, tous ces mecs-là, quand ils sont arrivés dans la région, ils ont fait couler toutes les boîtes.
Enfin, c'est pas qu'une question de mode, c'est surtout que les fonds de pension et les financiers ne veulent plus, à la tête des sociétés qu'ils ont rachetées, des gens qui ont encore un peu d'état d'âme vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de la gestion de la boîte et de la pérennité de la boîte. Ils veulent des gens, surtout, qui n'aient pas d'état d'âme si on a un plan social à faire, parce que les gens qui sont créateurs d'entreprises, eux, ont quand même quelques états d'âme, parce qu'ils risquent de croiser leurs ouvriers sur le marché.
Oui, comme par exemple, ils veulent qu'on mette que nos logiciels de paye comptable soient les mêmes que les grandes boîtes, parce qu'ils disent si un jour on se vend, il faut que ça soit tout convertible d'une minute à l'autre. Alors, chez nous, ils voulaient changer tout système informatique, parce qu'on n'est pas dans le type de la société qui est vendable plusieurs fois de suite. Les fonds de pension, ce n'est pas eux les fautifs, c'est nous qui vendons les fautifs. Et deuxièmement, les fautifs, c'est ceux qui ne nous achètent pas. Pourquoi les mairies, les régions, les communes, les ouvriers, les syndicats, des industriels français ne nous achètent pas?
C'est parce qu'eux, ils proposent un prix qui est quand même très, très, très élevé.
C'est évident qu'une boîte, maintenant, ça peut se vendre 50 millions d'euros, 100 millions d'euros. Ni le conseil général, ni la commune, ni même une coopérative pourrait payer comme ça.
Donc là, on rentre au Bontas Centre, ouais. C'est marqué.
Ouais.
Ça vous fait plaisir d'avoir votre nom comme ça, de marquer, bon, ici, à Marna, sur deux usines, mais aussi de l'avoir marqué à travers le monde?
Ouais, ça me fait plaisir qu'il y ait mon nom. Et ça voulait dire le centre de la commune. Parce qu'avant, il y avait quatre Bontas dans la région. Alors, on les a différenciés comme ça, mais les trois autres n'existent plus maintenant.
Donc, vous êtes en suprématie?
Ouais, ouais. Bon, il est quand même le temps de passer un petit peu de côté du manche, du côté des salariés et du côté des syndicalistes. Voyons comment quelqu'un comme M. Lejmi, qui est au syndicat CGT, voit ce phénomène.
Là, regarde, maintenant, nous sommes devant Franck Épinard. C'est maintenant, c'est Autocam, il a un drapeau français, un drapeau américain. Les Américains, les actionnaires, c'est vraiment que ce sera allemand, ça sera suisse. Quand il est un banquier qui n'a pas 15% net de BNF, la première chose, réduction du boulot, Bulgarie, République tchèque, Roumanie, la Chine, voilà. Prendre le boulot, que les ouvriers ils sont battus, ils sont crevés le cul pour développer le boulot, pour construire le boulot, vraiment qu'ils l'ont mis sur les quatre roues. Après, vraiment, tout nu, tout bronzé, je prends le boulot, je l'amène là-bas parce que c'est la guerre de la main-d'œuvre. Le banquier qui n'a pas 15% net, hein, c'est tout le monde dehors. Juste appuyer sur le bouton vert et les pièces tombent nickel chrome. Regarde, Cartier, Privaz, HF, Bontas, Franck Épinard. Ça reste quoi? VRChex, c'est vendu. Alors donc, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire les ouvriers ici dans la vallée de l'Arve?
Il faut des badges partout pour rentrer chez vous.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Vous voulez pas un café?
Non, merci.
Il n'a rien dit. Directeur des achats, comment enseigne ses clients, ses fournisseurs?
Ah, c'est vous qui allez discuter des prix avec...
Les fournisseurs.
Les fournisseurs, c'est notamment du métal, les tiges en métal, c'est quoi?
Tout. Tout ce qui est métal, composants...
Alors, comment vous négociez?
On leur donne un prix target. Donc on a déjà un prix objectif, et puis il faut qu'ils s'alignent à ce prix-là.
Et s'ils ne s'alignent pas à ce prix-là?
On change de fournisseur.
Et vous en trouvez toujours un qui
s'aligne? Facilement, qui s'aligne, ouais.
Facilement, vous allez où alors pour en trouver qui s'aligne facilement comme ça?
Partout. Alors. Bah les billes, oui, parce que les billes, en fait, on les achète en Belgique, et on a trouvé un fournisseur en France, et donc on a demandé donc à notre ancien fournisseur de s'aligner. Donc c'était pas possible et donc on lui a baissé sa production de 50% puis on est parti avec notre fournisseur français qui lui les achète en Chine par exemple ou à l'étranger en fait.
Lui il vous les fournit ici mais il les achète là-bas.
À l'étranger, ouais.
Donc la fabrication réelle elle est là-bas.
Elle est là-bas.
Ça c'est régulier que en fait il y ait le service commercial est ici mais en fait la fabrication. Ouais.
Ça commence à se faire de plus en plus et nous le demandons. On est obligé. Tous les ans, nos clients nous demandent des baisses de 3%, 5%. On est obligé de les répercuter sur nos composants.
Finalement, ce que vous regrettez, enfin le rapport qu'il y a vis-à-vis de l'industrie automobile avec vous le reproduisez un peu, M. Bontas, avec les fournisseurs, en allant chercher...
Mais ça a toujours existé, ça a même...
Mais auparavant, la concurrence, ce n'était pas forcément entre la Chine, la Belgique, l'Inde,
c'est
le Brésil.
C'est vrai qu'elle était moins vivante. Avant, il y avait que la France puis l'Allemagne, à peu près, qui était industrielle. C'est vrai que c'est la mondialisation, c'est venu partout.
Et vous, vous êtes arrivé dans l'entreprise pour faire ça? Vous étiez déjà fort?
Non, non, pas du tout. Ça fait 14 ans que je suis là et ça fait pas 14 ans que je suis aux achats. Hein. Donc, moi, j'étais dans l'atelier.
Vous étiez sur les machines?
Sur les machines, à monter des gicleurs, je sais à quoi ressemble un ressort, INBI.
Comme on avait beaucoup de personnel en trop, comme on allait en République tchèque, toutes les filles qui étaient capables, on les a mis dans les bureaux, on les a formées pour avoir des postes plutôt que de les licencier.
Donc finalement, vous, le fait qu'il y ait des suppressions de postes à l'assemblage, ça vous a permis d'avoir une promotion?
Une promotion, voilà. Exactement.
Toutes les employées qui y a là, elles viennent tous de l'atelier. Ben, on va peut-être passer là.
Voilà, bon courage.
Oui, salut, Denis, merci.
Au revoir.
Je vais faire une usine qui tombe tout seul. Une usine qui tombe tout seul. Il n'y a pas d'ouvriers ou un ou deux. Là, c'est l'atelier à commande numérique. Donc là, le plan est fait sur ordinateur.
Il y a étonnamment beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de régleurs qui sont en train de rechanger les séries. Mais sinon, ça tourne aussi bien la nuit et tu as deux personnes dans tout l'atelier.
Il y a deux personnes qui font tourner toute l'usine. C'est une pièce pour l'Amérique, pour General Motors. Mais cette pièce, après, elle va en République tchèque. Et là, on y assemble des pistons, des ressorts, des joints. Et c'est là qu'on a intérêt donc, d'être en République tchèque. Il y a peut-être 20 personnes qui travaillent sur le produit.
Et donc ça part en République tchèque.
Et ça part aux USA directement.
Dites, vous avez des pièces comme ça qui partent en Chine, à l'inverse?
Ça en part pareil en Chine, ouais. Cette pièce-là, elle va en Chine, par exemple.
Donc là, il y a des... derrière le plexiglas, il y a des dames qui travaillent.
Voilà. Alors nous, on a environ 50 dames qu'on ne veut pas licencier par déontologie, mais qu'on pourrait faire le travail en République tchèque. Alors, elles partent à la retraite, mais on rembauche personne à leur place.
Donc là, c'est ces dames qui sont...
Il y en a un petit peu partout. Il faut de l'assemblage et du contrôle.
Donc ça, c'est les 50 que vous gardez? Ça, c'est...
qui nous restait de quand on est parti en République tchèque. Disons qu'on n'a pas licencié.
Et donc les effectifs de votre entreprise, ils sont stables?
Ils baissent. On était 350, maintenant on était 250. Donc on a deux immenses camions qui viennent tous les jours de la Tchéquie et qui ramènent... on a un contrat avec une société de logistique tchèque. Et tous les camions partent d'ici.
Ça coûte combien un chauffeur tchèque?
Mais c'est pas nous qui les payons, on sous-traite à une société tchèque. Et les camions se mettent là, ça s'en va.
Donc là, on passe dans les bureaux. Bonjour.
Bonjour.
Là, dans le bureau, Monsieur Bontaz, il y a trois horloges. Une horloge qui indique l'heure en Chine, donc il est 3h moins quart en Chine. J'ai pas l'impression qu'elle soit bien réglée, vos horloges, d'ailleurs. La deuxième, c'est marqué Saint-Martin.
Saint-Martin, il est 3h30. J'ai un hôtel à Saint-Martin.
Et à Brésil, il est 10h, au Brésil, il est 10h moins quart.
J'ai un hôtel à Saint-Martin, qu'on a fait avec la défiscalisation. Ouais, sur l'île de Saint-Martin, un hôtel, ouais.
Alors, l'hôtel, il y a une photo, photo d'une lagune bleue magnifique avec des montagnes. Mais il n'y a pas le soleil, mais on le devine.
Alors, cet hôtel-là, c'était un peu pour plaisir, mais ce qui ne m'a pas plu, c'est que le train de la CGT disait honte à la famille Bontaz qui s'est fait une résidence secondaire à Saint-Martin, alors que c'était un outil de travail pour créer quelques emplois là-bas. Puis j'ai un hôtel à Lyon aussi, moi je suis un entrepreneur.
Tout à l'heure, vous vous plaignez comme quoi on ne pouvait pas investir, il ne vous restait rien après le fisc, la CGT,
mais justement, c'est,
l'État...
Mais ça a tout été fait par emprunt, je n'ai pas donné un centime, j'ai emprunté à 100%. Et si vous connaissez un peu la fiscalité, la loi, l'État a fait beaucoup de, disons, d'avantages à ceux qui défiscalisaient dans les Antilles, parce que ce pays ne sait pas se prendre en compte, et on est exonéré d'impôts à 50%, tous nos impôts à 50% pendant 10 ans, à peu près. Donc il ne nous a rien coûté, les Antilles.
Et moi, vous croyez que je pourrais acheter un hôtel aux Antilles?
Peut-être pas, parce que c'est vrai que les banques, elles prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent.
Oui, les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent. Les fonds de pension, les fonds d'investissement, ne prêtent pas grand-chose. Les fonds d'investissement rachètent ces entreprises et n'investissent pas. N'investissent pas. C'est comme ça que les entreprises, peu à peu, capotent. Et pour la plus grande, le plus grand malheur des salariés, mais aussi la grande inquiétude des patrons, des entrepreneurs divers et variés. C'est ainsi que dans la vallée de l'Arve, eh bien, où nombre d'entreprises ont été rachetées par des fonds de pension, les plans sociaux se multiplient et pour la première fois, on a vu des manifestations ouvrières dans cette vallée. Spectacle peu habituel. Et les actionnaires de ces fonds de pension ne savent pas très bien les conséquences de leurs investissements, aussi insouciants qu'invisibles. Ils constituent cependant une menace réelle contre les salariés et contre ces entreprises. Cette façon de voir les choses, toute simple, toute claire et semble-t-il toute évidente, ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ainsi que le film de Gilles Perret, Ma mondialisation, qui a été vu par nombre de spectateurs, évidemment d'abord dans la région, parce que ça les intéresse beaucoup, c'est leur propre vie, c'est leur avenir dont il est question, le film a quand même été interdit de projection dans la ville. Le maire de Cluses a interdit la projection du film dans sa bonne ville. On retrouve Frédéric Lordon pour une analyse définitive et provisoire, bien sûr.
On a l'impression que c'est la finance contre l'industrie, le capitalisme financier contre le capitalisme industriel. Comme si là, il y avait le choc, finalement, entre deux capitalismes.
On saisit en général le capital sous l'espèce d'une entité unifiée, homogène, il n'en est rien. Le premier grand clivage, sans doute le plus important, est celui qui en effet oppose capitalisme financier ou capital financier et capital industriel, parce que ce sont deux formes du capital qui sont régies par des logiques tout à fait différentes. L'homme du capital industriel, il a fondamentalement vocation à, je dirais, à faire des choses, à réaliser, à faire croître son entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est les grands mythes mobilisateurs du capitalisme ou du capital industriel? C'est marquer les paysages de son empreinte. Monsieur Bouygues éprouve une jouissance particulière à voir ses ouvrages d'art traverser les paysages de France. Bon, c'est engendrer, être au principe de révolution technologique. Monsieur Bill Gates se vante d'être à l'origine de la présence de PC munis de Windows dans bon nombre des foyers du monde occidental. C'est d'engendrer des dynasties industrielles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les grands mythes mobilisateurs du capital industriel. Évidemment, je ne dis absolument pas que le profit est indifférent pour ces hommes-là. Enfin, ce serait ridicule. Mais le profit n'est pas le seul mobile. L'homme du capital financier, lui, poursuit de toute autre logique. La production, il en est loin. La réalisation, ça ne l'intéresse pas. L'empire industriel, c'est pas son truc. Sa logique à lui, c'est d'investir du capital à un bout et de le récupérer à l'autre extrémité, mais grossit de sa plus-value. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien d'autre qui puisse intéresser l'homme du capital financier que la différence entre le capital à la sortie et le capital à l'entrée. Et par conséquent, il n'y a rien d'autre qui puisse le mettre en mouvement que la recherche de la rentabilité financière et du profit pur. Ce qui se passe entre l'entrée des fonds et la sortie des fonds augmentée de la plus-value, ça ne le regarde pas et ça ne l'intéresse pas. Et si jamais c'est l'industrie du yaourt qui s'avère dégager un taux de plus-value supérieur à celui des centrales nucléaires, il abandonnera les centrales nucléaires sans regret. Et il investira dans les yaourts, parce que l'un ou l'autre, c'est égal, c'est indifférent de son point de vue. Alors évidemment, ces deux logiques sont vouées la plupart du temps à se télescoper et d'une manière qui peut faire parfois des étincelles, particulièrement en ces temps de grandes déréglementations financières qui ont redonné un pouvoir considérable aux hommes du capital financier. Alors ça peut se voir par exemple au travers d'un indicateur qui s'appelle le ROE, ce qui veut dire en bon français rendement des capitaux propres. C'est un anglicisme, c'est Return on Equity. Au début des années 90, une grande entreprise française comme la BNP livrait à ses actionnaires un retour sur capitaux propres entre 2 et 3 %. Au milieu des années 90, le retour sur capitaux propres exigé par les financiers et livré par les entreprises est d'environ 10 %. À la fin des années 90, il est de 15 %. Au début des années 2000, il est de 20 %.
Comment on explique la prise de pouvoir du capitalisme financier sur le capitalisme industriel ?
Alors ça, c'est l'effet d'une loi. C'est l'effet de loi. En France, c'est tout à fait typique. C'est la loi de déréglementation des marchés financiers qui a été passée en 1986 par un gouvernement socialiste, celui de, dans lequel Pierre Bérégovoy était ministre des Finances. Je me lasse jamais de le répéter, car l'expérience aura montré que les gouvernements sociaux-démocrates, pendant les deux dernières décennies, auront été vraiment les meilleurs amis de la finance. Les réformateurs de l'époque, qui ont le nez vraiment sur le guidon, n'ont pas la moindre idée du changement d'époque qu'ils font connaître, non seulement à l'économie française, mais à la société française. Moi, je maintiens que cette loi de déréglementation de 1986 est l'événement le plus important qui soit survenu dans la société française dans le demi-siècle écoulé.
Ça, c'est... À partir de 1986, on autorise les fonds américains à venir racheter des entreprises en France. À partir de 1986, c'est autorisé.
Absolument. Les médias qui ont un appétit insatiable pour les anniversaires ineptes, il y a 30 ans, on fête la première démission de Chirac. C'est bien intéressant. Il y a 25 ans, on fête la mort de Georges Brassens. On paie à son âme. Mais enfin, ce n'est pas des événements quand même très, très importants. Personne n'a songé à fêter, il faudrait mettre des guillemets, hein, l'anniversaire de la loi de déréglementation de 1986. Je peux vous garantir qu'elle nous a fait changer d'époque.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou. Quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiette, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homère il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la, les PDG.
Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, hein, 1300 emplois. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez.
Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable. Et ils s'excitent d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement, c'est pour eux une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. Donc pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Voilà la mondialisation heureuse vue par les patrons ou par des patrons. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Monsieur Bontaz, à Frédéric Lordon, Gilles Perret, à Mademoiselle Doumia, à Monsieur Légemi. Merci à tous. Je rappelle le titre du film de Gilles Perret, Ma mondialisation. Vous pouvez en avoir les références sur le site de France Inter, la rubrique émission, là-bas, si j'y suis. Des nouvelles de Waraka. On a consacré un début d'émission, une moitié d'émission vendredi à ce qui se passe dans cette ville du Mexique. Et je vous signale un rassemblement mercredi prochain, le 6 décembre, à 18h, face à l'ambassade du Mexique, 9 rue de Longchamp, Paris, dans le 16e arrondissement, c'est au métro Iéna, face à l'ambassade du Mexique, mercredi donc 6 décembre. Selon le journal mexicain La Jornada, il y aurait, suite aux récents événements, 522 prisonniers, 100 disparus et plus de 25
morts depuis le début de ce conflit il y a 6 mois. Les informations concernant les repères des amis de la base Sigisfier, bien vous les retrouvez sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, également sur là-bas.org, www.la-bas.org. C'est assez curieux d'ailleurs parce que les repères, souvent les rendez-vous sont la première semaine de chaque mois, c'est ainsi, c'est très bien. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Rémi Casse, et Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le Pascariello et Renaud Lambert. C'est Christophe Imbert qui attend vos messages auprès du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Réclame.